Scarp Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action ! Bonjour à tous, c'est votre moment cinéma de la semaine. Scarp Ciné, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir des frères cinéphiles qui animent un club ciné à l'Idéal Cinéma Jacques Tati à Aniche, près de Douai. Avant la projection du film Les Deux Cavaliers de John Ford, Carole était avec eux, avec Thierry et Bernard Bulté.
Écoutez le cinéma en région sur Radio Scarp Sensé.
Aujourd'hui, je suis à Aniche, à l'Idéal Cinéma Jacques Tati, la plus vieille salle de cinéma. En effet, la première projection a eu lieu en 1905 et on me dit oui de la tête. Comme quelques soirs durant l'année, les spectateurs assisteront à une séance du ciné-club. Au programme, le western de John Ford, Les Deux Cavaliers. Après la séance du ciné-club, les frères Bulté animent un débat toujours au top. Mais qui êtes-vous ?
Moi, je suis professeur d'école en retraite. Alors, je suis tombé dans la marmite cinéma très jeune, puisque notre papa était projectionniste au Royal Palace, car il y avait autrefois deux cinémas à Niche. L'Idéal Cinéma, dans lequel nous sommes, et le Royal Palace. Donc, notre papa avait deux métiers. Dans la journée, il était chaudronnier-soudeur aux ateliers centraux d'Aniche, et le soir, il était projectionniste. Donc, au début, j'allais voir à peu près tous les films, quoi. Puis après, je suis devenu plus exigeant, plus sélectif. Et je fréquentais aussi l'Idéal Cinéma. D'ailleurs, je fréquentais les deux cinémas. Voilà. Et le frangin, Thierry, il est aussi dingue de Cinoche que moi, hein, depuis toujours. Voilà. Et on nous a contactés il y a une quinzaine d'années à peu près pour nous demander d'animer le club ciné du cinéma Jacques Tati. Autrefois, c'était un journaliste qui animait les soirées du club ciné. Un journaliste de la revue
Thousand Augen de Lille.
Voilà, je ne le répéterai pas. Voilà. Et puis, nous, on participait activement au débat. Hein. Et Roger Facon s'est dit, tiens, les frères Bulté, finalement, ils en savent peut-être autant que le journaliste. Et sur leur demander d'animer le ciné-club. Puis en plus, au moins, là, ce serait gratuit. Parce que nous sommes des bénévoles.
Et toi, Thierry, alors, comment t'es tombé dedans, mis à part un peu de famille, mais par quel bout aussi, le même que ton frère ou
Effectivement, c'est mon frère qui, je dirais, par un petit carnet qu'il m'a laissé au moment où il s'est fiancé et puis qu'il est parti de la maison, il m'a laissé un petit carnet avec des photos qu'il avait collées, des photos qu'il avait trouvées dans la Voie du Nord, lors des sorties cinéma, des films qu'il avait vus. Et il avait répertorié ça de manière très, 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 je dirais, carrée et puis vraiment très religieuse dans ce carnet où on voyait effectivement la distribution, on voyait des photos du film, on voyait le scénario, on pouvait lire le scénario, et des films absolument fabuleux, des films avec des titres qui font rêver, Robin des Bois contre les pirates, La machine à explorer le temps, qu'on a eu la chance de passer ici il y a quelques années, voilà, des Gabins, des films, il y a aussi L'Empreinte du Dragon Rouge avec Christopher Lee, donc tous ces films, ce petit carnet, ça a été le point de départ, c'était le déclencheur de ma passion pour le cinéma. Je me suis dit, mais c'est absolument fabuleux. En plus, il m'avait laissé aussi des fiches cartonnées, des fiches Bristol, avec, je dirais, il avait bien conçu les choses avant l'heure, avant ce qu'on voit maintenant sur Internet, c'est-à-dire des fiches complètes avec des réalisateurs comme John Ford, Nicolas Ray, John Sturges, et tous ces grands metteurs en scène avaient leurs fiches Bristol, avec le descriptif de leur carrière, et puis aussi des renseignements concernant leur filmographie. Donc là, c'était là aussi un grand, pour moi, déclencheur de toutes ces fiches et ce petit carnet pour pouvoir effectivement moi-même construire ma passion. C'était le socle. Et puis après, une des plus belles périodes de ma cinéphilie, ça a été la période, et même mon frère ne va pas me contredire parce que lui, c'est pareil, la période dernière séance à la télé. Alors ça, parce que moi qui n'ai pas connu le cinéma, je dirais, à l'époque où notre papa y travaillait, contrairement à mon frère, grâce à cette émission et ce que me racontaient mon frère et mon père aux soirées de Noël ou aux repas de famille où on ne parlait que de cinéma, hein, les dames parlaient chiffon, nous on parlait cinéma, et toutes ces aventures familiales cinématographiques qu'on se racontait, là aussi ça a été une belle émulation de cinéphile, et ça m'a aussi construit énormément, tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire donc que ces séances de ciné-club, c'est aussi un retour sur votre enfance, votre jeunesse ?
Oui, parce que bien avant que mon père ne soit projectionniste, je fréquentais déjà l'idéal cinéma avec mes grands-parents. Parce que finalement, l'amour du cinéma, ça a toujours été une tradition familiale, parce que mon grand-père m'emmenait aussi le samedi soir au cinéma. Et à l'époque, on s'habillait pour aller au cinéma. Mon grand-père mettait son beau costume à rayures, son chapeau, et ma grand-mère mettait sa robe à fleurs. Et on venait ici à l'idéal cinéma. Je me souviens, on se mettait au balcon, on voyait les magnifiques westerns d'Alan Ladd en Technicolor. Donc ça, c'est vrai que ça... Ça me rappelle aussi des moments magiques de mon enfance. Oui.
Et puis tu as dessiné.
Oui. Avec notre grand-père achetait la revue Mon Film. Hein, on en possède plusieurs centaines d'exemplaires. Je lisais ça avec passion.
Oui, parce que Mon Film avait la particularité de proposer un film complet avec un descriptif du scénario et complet lui aussi, et puis des photos du film. Alors c'était vraiment, je dirais, l'objet absolument cultissime du cinéphile. Et puis en plus, avec le temps, ça a pris une de ses patines, vraiment le papier ancien, c'est magnifique. Et puis aussi, notre grand-père a également aussi dessiné des acteurs du muet. Il avait fait Tom Mix, William S. Hart, des cow-boys du muet, de l'époque du muet, tout ça. Donc tout ça, ça aussi, c'est notre empreinte génétique cinématographique aussi. Ça.
Alors ce soir, vous allez présenter Les Deux Cavaliers de John Ford avec James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones. Quel est le processus de choix d'un film ?
C'est variable. Hein. On essaie surtout de mélanger les genres. Quoi. Au cours d'une année, on va par exemple programmer un western, un film fantastique, un film de guerre, un drame ou une comédie. Ce qui motive nos choix, c'est d'abord le contenu du catalogue. Parce que faut pas croire, c'est très difficile d'obtenir les films que l'on veut projeter. On est allé parfois de déception en déception. Je pense notamment au film d'Elia Kazan. On n'a pas eu de chance. Hein. On a voulu programmer Panique dans la rue, pas moyen de l'avoir. On a voulu programmer À l'Est d'Éden, pas moyen de l'avoir. Les droits se sont délités ou alors les copies sont très, très mauvaises, sont en très mauvais état. Donc, avant, on se fournissait chez Swashbuckler. Et maintenant, on a changé de fournisseur. Ouais, Park Circus, Swank Film. Oui. on consulte le catalogue et puis on se dit, tiens, t'as vu, là, tiens, il y a la rivière rouge de Ward Hawks, ça c'est super. Oh, il y a Vertigo d'Hitchcock, ça serait pas mal non plus. Donc c'est en fonction de ce que nous propose le catalogue, quoi, le catalogue de films. Et encore une fois, on essaie de varier les genres.
Comme tu le disais si bien, les droits de projection, de diffusion des films se sont pas mal délités à l'étranger. Et quelquefois, c'est un vrai jeu de piste pour retrouver la trace d'un film. Et quelquefois, effectivement, ça aboutit à une impasse parce que les droits ne sont plus, soit ne sont plus consultables ou accessibles pour une diffusion en salle. Il faut dire effectivement, maintenant, on est dans une pensée d'esprit qui est plus industrielle, mercantilisée, mais on se bat pour justement sauvegarder ce patrimoine mémoriel cinématographique de l'époque classique, parce que il n'y aurait pas de film maintenant s'il n'y avait pas eu cette période-là. Donc elle se doit d'être effectivement entretenue, d'être connue, reconnue, revisitée sans cesse. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe dans l'oubli, parce que sinon on va priver les générations futures de cinéphiles, de spectateurs, d'un pan entier de la création cinématographique, et ça, c'est juste pas possible.
Voilà. Tout à l'heure, vous me demandiez si ma passion pour le cinéma me rappelait mon enfance. Il faut que je vous dise que le tout premier film que j'ai vu, j'avais qu'à l'âge 6 ans, c'était Marianne de ma jeunesse de Julien Duvivier. Un film en noir et blanc avec Pierre Vanneck. Mais quand j'ai vu les images, j'étais terrorisé. Je veux dire, ça m'a sans doute fait le même effet que les premiers spectateurs qui ont vu l'arrivée du train en gare à La Ciotat des Frères Lumière, quoi. J'étais, en plus, ça se passe souvent dans des forêts sombres, mais c'était le choc, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Et le deuxième film que j'ai vu, là c'est un film en couleur, c'est le film d'Anthony Mann, c'est La Charge des Tuniques Bleues avec Victor Mature, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur au visage torturé. D'où, sans doute, mon goût pour le western. Donc, ce sont deux films qui m'ont profondément marqué. Oui, je les avais vus. Le premier, j'ai dû le voir sur les boulevards parisiens. Et le deuxième, je l'ai vu en Guy-à-les-Bains. Oui, je me souviens très bien. Ouais.
Et le cinéma, ce n'est pas que sur grand écran, c'est aussi dans la salle, suite de la rencontre avec Thierry et Bernard Bulté, avec le thème du film « Les deux cavaliers » de John Ford, composé par George During. C'est Scarp Ciné et vous écoutez Radio Scarp Sensé. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.
Vous êtes au cœur d'une heure de cinéma régional. Scarp Ciné, regardez autrement votre ville.
La musique du film Les Deux Cavaliers, réalisé par John Ford en 1961 avec James Stewart et Richard Widmark. Ce western suit le shérif Guntry McCabe, fumeur et alcoolique notoire. Il voit un jour débarquer dans sa ville une vieille connaissance, le lieutenant James Garry. Autour d'un verre, les deux compères décident de partir en territoire indien. En effet, ils vont tenter de négocier avec les Comanches la restitution des prisonniers blancs qu'ils ont capturés au cours de ces 10 dernières années. Ce long métrage a été projeté à l'Idéal Cinéma Jacques Tati à Aniche, près de Douai, par les deux frères cinéphiles Thierry et Bernard Bulté, suite de la rencontre avec Carole.
Séquence studio sur Radio Scarpe Sensé.
Alors, quand vous animez un ciné-débat, il y a toujours des grandes histoires et puis des petites histoires. Mais où est-ce que vous allez les chercher, ces grandes histoires et ces petites histoires à propos du film ?
Comme nous sommes cinéphiles, nous avons pas mal de documentation à la maison. Hein. Moi, juste avant de venir, j'ai consulté encore deux ouvrages de John Ford. Donc, on essaie de trouver des petites anecdotes intéressantes hein, concernant le tournage. Et puis, bon, on a quand même une culture cinématographique assez riche, je pense.
On l'entretient effectivement depuis le tournage. On se nourrit de cette...
Voilà. Et puis, on regarde aussi des documents. Il y a des documents intéressants qui passent sur OCS, hein, sur les réalisateurs, les acteurs... sur OCS, il y a souvent des documents intéressants.
Tout à fait.
Ouais, qui sont une mine de renseignements.
Absolument. Hein,
une mine d'informations.
Oui.
On a étendu la panoplie, je dirais, du possible en ce qui concerne nos recherches. Et c'est très gratifiant, c'est très fabuleux parce que effectivement, on a la possibilité. Enfin, moi, par exemple, j'ai des contacts avec des personnes aux États-Unis qui ont côtoyé des acteurs. Et je parle régulièrement avec elles par certains médias sociaux qui, en fait, justifient le fait de pouvoir être un média intéressant en ce sens pour pouvoir effectivement collecter des informations précieuses. Quand vous avez une personne qui vous dit écoute, moi j'ai été ami d'un cascadeur qui a tourné chez John Ford, quand vous avez la possibilité de contacter quelqu'un qui a tourné enfant dans les westerns des années 50 et vous parlez avec lui sur un média, mais c'est absolument incroyable, c'est une richesse absolue. Donc il y a cet exemple, il y en a tant d'autres, effectivement, on est un petit peu comme des archéologues, hein, on farfouille partout à la recherche de la pépite, mais il est toujours intéressant. On est un peu, on se dit des bonus vivants, un petit peu comme les bonus DVD, mais là on a les bonus vivants de la séance Ciné Club. Voilà. Moi, j'ai essayé tout le temps de trouver quelques petites anecdotes sympas, des choses comme ça, des anecdotes de tournage sur des choses qui ont été très sympathiques pendant le tournage, ou des petits accidents, ou des petites choses qui n'ont pas été forcément tout droit par rapport au scénario ou à l'interprétation. C'est ça aussi qui enrichit effectivement le débat. Puis en plus, on a, comme dit Manin, un débat très participatif, et ça fait chaud au cœur. C'est ça qui nous nourrit aussi, c'est le partage. Le partage, c'est un mot absolument très mise en avant pour ces séances ciné-club.
Alors justement, vous parlez des spectateurs. Alors, quel est le profil habituel des spectateurs à cette séance de ciné-club ?
Ben, déjà, on précise souvent que nos séances ciné-club ne sont pas réservées à un public de spécialistes. Tous les avis nous intéressent. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir... aux séances du club ciné du cinéma Jacques Tati, et même si vous n'êtes pas un cinéphile très pointu, tous les avis nous intéressent. Bon, on a quand même quelques pointures. Hein.
On a un
noyau dur de fidèles, et on a intérêt à maîtriser notre sujet, parce que si on dit une bêtise, il ne nous loupe pas. Il y a un comédien qui vient de nos amis comédiens, il y a... un écrivain, un scénariste de BD qui vient. Un ami cinéphile aussi qui a une culture cinématographique aussi. Passionné de cinéma fantastique. Donc, on a un noyau dur, disons, de cinéphiles, Mais à chaque séance, il y a de nouvelles têtes.
Hein. Oui, tout à fait, c'est ça.
Oui, oui. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Et encore une fois, tous les avis nous intéressent. Hein. Nous ne faisons pas ça pour un public de spécialistes.
Vraiment, on peut dire que les séances de ciné-club ici, c'est de l'hyper-participatif.
Absolument, absolument, c'est tout à fait le terme adéquat. J'en veux pour preuve que, effectivement, le bonheur d'entendre chaque personne qui souhaite s'exprimer, de dire son ressenti, et Dieu sait que les ressentis sont les plus divers, et c'est ça qui enrichit le débat, et c'est ça qui montre à quel point un film, quand un réalisateur livre un film, après ce sont les spectateurs qui se l'approprient avec leur feeling, leur appréciation, et c'est ça aussi qui est génial. Il y a quantité de ressentis possibles et à chaque fois, ils sont tous débattus et c'est très très enrichissant. Franchement, c'est...
Oui. Notre objectif, c'est aussi de faire découvrir aux jeunes générations tous ces cinéastes qui ont fait le cinéma. Hein, Ford, Hitchcock, Fritz Lang, Howard Hawks. Et on n'est jamais autant heureux que lorsque des jeunes, à l'issue de la séance, viennent nous féliciter, comme c'est arrivé lorsque nous avons projeté La Poursuite Infernale. Hein, il y a des jeunes qui sont, on l'avait projeté en VO, et il y a des jeunes qui sont venus nous remercier. On s'est dit mission accomplie. Enfin, c'est un grand mot, mais je me souviens aussi qu'il y a un collégien, une collégienne qui était venue voir L'étrange créature du lac noir, qui avait trouvé le film formidable, et puis qui avait participé au débat aussi. Et tout récemment, quand on a après la projection de Fablemans, le dernier Spielberg, il y a un jeune aussi qui est venu nous parler dans le hall du cinéma, qui s'est renseigné sur les séances ciné-club et qui nous a promis de venir. Donc on est là aussi pour faire découvrir tout ce cinéma aux jeunes générations.
Toucher un jeune public, c'est très émouvant parce que, en fait, effectivement, c'est la belle passation que nous aurons à un moment donné à envisager, ce sera eux qui ils seront effectivement les nouveaux porteurs, les nouveaux messagers, les nouveaux ambassadeurs. Donc, voir des jeunes s'intéresser au cinéma de papa, comme dit la formule consacrée, c'est fabuleux, franchement.
Bien, merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Thierry. Il y a déjà des spectateurs qui, on les entend un petit peu, qui ont hâte de participer à la séance. Eh bien, merci et peut-être qu'on se retrouvera à la fin de la séance. Merci beaucoup.
Tuer Stone Calf ou être tué par lui pourrait déclencher une autre guerre Comanche.
Mais si je suis tué, est-ce que je ne voudrais pas une nouvelle guerre, par hasard?
Je ne discute pas avec vous, McCabe, je vous donne un ordre.
Oui, je trouve que j'en ai reçu assez d'ordres et que ça suffit.
Vous ne me blufferez pas comme ça.
Faites attention, Jim. Écoutez bien. Restez où vous êtes. Je n'ai pas à dégainer pour beaucoup d'hommes, mais quand je l'ai fait, je ne bluffais pas et je ne bluffe pas. Ne me forcez pas à vous le prouver.
Je vous en préviens loyalement, McCabe. Je vous sauterai dessus à la première occasion.
Vous êtes bien assez entêté pour le faire, hélas.
Extrait du film « Les deux cavaliers » de John Ford, diffusé dans le cadre d'un club ciné présenté par Thierry et Bernard Bulté, deux frères cinéphiles. Carole a glissé son micro dans la salle après la projection pour enregistrer l'échange au sujet de ce long métrage. Quelques extraits.
Lumière sur votre cinéma, sur la plus locale des FM.
The romantic Old West was a land inhabited by fearless white men, treacherous redskins, and women of lily white purity. In short, a land which never existed.
Il a tourné le film pour faire plaisir à Harry Cohn, qui était le patron de la Columbia. Il l'a fait aussi pour l'argent, parce qu'il a même quand même touché 225 000 dollars après avoir réalisé le film, plus 25% sur les recettes. Hein? Donc il a touché quand même un sacré pactole. Mais John Ford n'était pas content du scénario. Donc il a demandé à Frank Nugent, qui était son scénariste attitré, de remanier le scénario.
mais même la nouvelle mouture ne lui convenait pas. Donc, il s'est désintéressé du tournage. Bon, il faut dire aussi que c'est pendant justement ce tournage que son grand ami Warburton est disparu. Donc, c'était un ami intime. Donc, John Ford en a fait une dépression. Il s'est consolé avec la bouteille. Il a écourté le tournage pour partir sur son bateau. Hein, bon, tout ça, ça a quand même nuit beaucoup à la qualité du film.
Now, here is the West as it really was, in John Ford's Two Road Together. Starring James Stewart, a new kind of marshal on the old frontier.
Il y a Bertrand Tavernier qui disait justement sur le bonus de l'édition collector DVD de ce film qu'il arrive que quelquefois qu'un réalisateur se désintéresse du film qu'il est en train de tourner. Par exemple, il avait pris l'exemple de John Huston pour David et Grand Chemin, avec John Hurt dans le rôle principal. Il n'aimait tellement pas John Hurt qu'il aurait voulu que John Hurt fasse des cascades stupides pour se blesser, voire, gravement, pour dire de stopper le film, d'arrêter le film. Donc, là, c'est quand même jusqu'au boutiste dans le procédé, mais bon, ça montre que tout est question d'état d'esprit hein, sur un tournage. Hein, ça.
Bon, on connaît les facéties de John Ford. Il est allé voir James Stewart, puis il a dit « Fais attention, Widmark va essayer de te voler la scène. » Ensuite, il est allé voir Widmark et dit « Fais attention, Stewart, il va essayer de te voler la scène. Et maintenant, débrouillez-vous. Oui. Bonjour l'ambiance. »
Oui, c'était vraiment quelqu'un qui avait un très fort caractère, hein. John Ford. Moi, il y a une anecdote que j'adore raconter parce qu'elle est vraiment typique du personnage. John Ford, c'était pas le gars qu'il fallait chatouiller sur un tournage. Il avait l'humeur assez violente. Une fois, comme ça, sur le tournage d'un film Mad Men Valley, John Ford était en contemplation devant justement le site. Et puis, il y a ces apprenti producteur qui vient lui tapoter sur l'épaule en disant « Écoutez, monsieur, ça va pas. Votre film est trop long. Vous avez dépassé le timing, vous avez dépassé également le prix, le coût du film, ça va pas du tout. » Et donc, de ce fait-là, John Ford se retourne vis-à-vis du Kitam qui lui dit, il tape sur l'épaule en disant « Mais qu'est-ce que tu veux quoi ?»« Écoutez, vraiment ça va pas, il faut trouver une solution, c'est trop long, c'est trop coûteux. »« Ah bon ? Donne-moi le script. » Il a pris le script, John Ford, au hasard il a arraché une dizaine de pages, il les a lancés comme ça au vent derrière lui en disant « Tiens, ton film est plus court et moins coûteux. Maintenant, tu dégages. Maintenant, dégage. » Voilà. Ça, c'était John Ford tout craché. C'est quelqu'un, effectivement, qui... Ah oui, si, tout à fait. Mais surtout pas l'embêter.
James McCabe. Guthrie McCabe. Richard Widmark as a hell for leather cavalry officer.
We're riding out of here in a couple hours. And I mean riding, not float.
Alors Laurent, tout à l'heure tu parlais de l'humour fordien, bon, qui est présent aussi dans quelques scènes, hein. Mais c'est vrai que les deux personnages joués par Ken Curtis et Harry Carey Jr., là, les deux jeunes gens qui se font enfariner, bon, John Ford il leur a donné des rôles de pitre, quoi, hein, vraiment. Il a fait d'eux un portrait assez caricatural. Hein. Même les Indiens sont présentés de manière caricaturale. Hein. Alors, pour ceux qui ont déjà vu La Prisonnière du désert, vous aurez remarqué que c'est Harry Brandon qui joue le chef indien dans les deux films.
Tout à fait, hein. Absolument.
Il joue Scar Eclair dans La Prisonnière du désert, et c'est lui qui joue Quanah Parker dans Les Deux Cavaliers.
Quanah Parker qui a vraiment existé, qui était... Je dirais tout à fait d'une dimension autre que ce qu'on nous a montré à l'écran ce soir.
Oui. Il y avait une autre stature. Hein.
Absolument.
Et bon, finalement, les négociations sont rapides. On se demande pourquoi elles n'ont pas eu lieu plus tôt, finalement. Hein, parce que, bon, là, on a deux canailles aussi cupides l'une que l'autre, hein, Guthrie McCabe et Quanah Parker. Il échange les prisonniers contre des armes, quand même. Il donne des armes à des Indiens. Hein.
Il y a un thème aussi qui est présent pas mal dans le film, c'est le thème de la frustration. C'est-à-dire qu'on voit deux chefs indiens, l'un face à l'autre, assez robuste. Et puis il y a un petit échange, on se dit tiens, il va peut-être se passer quelque chose quand même qui va nous remuer un petit peu, ça va être assez violent. Bah finalement ça fait pchit et plouf quoi, parce qu'on ne les voit pas se confronter quoi.
Voilà, c'est ça. C'est...
On dirait que John Ford prend un malin plaisir justement, comme il s'est désintéressé du film, aussi il prend un malin plaisir un petit peu à dégoupiller une grenade et puis la regoupiller aussitôt quoi. C'est...
La rivalité entre les deux chefs indiens n'aboutit à rien quoi, il n'y a pas d'affrontement, il y a... C'est ce qu'on a reproché à Ford aussi, qu'il y a quelques trous dans le scénario comme ça.
John Ford, only director to win four Academy Awards, has more than any creator in Hollywood infused the Western film with importance and realism.
Go on back to Minnesota. Forget you ever had a daughter.
Forget? Forget? I...
The Comanches mate their women early. If your daughter's still alive, she'd probably run around with a couple of half-breed brats by this time.
Oh, come on, McCabe, that's a hell of a thing to say.
Alors, il y a eu auparavant un western qui est justement, qui est un western de 54, qui était sorti du lot, qui était interprété par deux grandes stars, là aussi, d'Hollywood de l'époque, à savoir, si je dis Gary Cooper et Burt Lancaster. Vera Cruz. Bah dans Vera Cruz, oui. Bah Gary Cooper, pareil.
C'est vrai, oui, absolument.
C'est vrai.
C'est pareil, c'est des personnages qui ne voient que le pognon, quoi. C'est tout ce qui les intéresse. Hein, et,
absolument.
Oui, ouais, aussi préfigure les héros des western spaghetti de Léon, oui, absolument.
Alors qui date de 1954, ouais. Hein, qui est en pleine période classique, je dirais, du western. Une pépite.
Donc Patrick Brion, dans les bonus du DVD, Patrick Brion qui nous a régalé pendant des années avec le cinéma de minuit. Hein,
voilà, tous les insomniaques s'en souviennent, à minuit.
Je le cite, il nous dit que c'est un regard de misanthrope qui fait l'unité de ce film malade. Donc il dit que John Ford livre un regard de misanthrope sur cette Amérique puritaine. Film malade, bon là il va un peu fort, je me dirais plutôt un film peut-être un peu boiteux, mais enfin malade.
Malade, oui, non, c'est, au contraire, c'est, on l'a vu ce soir, c'est un film qui soulève des questions,
oui.
Parce qu'il n'est pas banal. Et il est... Donc au contraire, non, moi je crois que c'est un film très intéressant, au contraire. Absolument.
The way it was, with moments of fun and laughter, of courage and heartbreak.
What is it now?
These people. They smile at me and show their teeth. I haven't seen the back of anyone's head since I came here. Their eyes are all on my body like dirty fingers.
On retrouve Harry Brandon, on l'a dit aussi, hein, qui était Scar dans La Prisonnière du désert.
Ouais.
John Quallen aussi. John Quallen qui a un rôle très émouvant dans Les Deux Cavaliers. Il veut retrouver sa petite fille qui a les yeux bleus, qui a les cheveux blonds, hein, qui pleure... Et alors lui, il jouait Monsieur Jorgensen dans La Prisonnière du désert, le père de Vera Miles. Et il y a une scène assez drôle d'ailleurs où bon, vous savez que John Wayne aide-moi, Martin Paulet.
Ah, Jeffrey Hunter.
Jeffrey Hunter, oui, oui. Ouais. John Wayne et Jeffrey Hunter partent plusieurs années pour essayer de retrouver la nièce de John Wayne qui a été capturée par les Indiens. Et de temps en temps, ils reviennent chez les Jorgensen. Hein. Ou alors, ils écrivent aussi, mais la lettre, mais de longs mois à parvenir. Et là, une lettre de Martin Paulet arrive chez les Jorgensen. Donc, c'est Vera Miles qui prend la lettre, qui va la lire devant ses parents, et Monsieur Jorgensen met ses lunettes, alors que c'est pas lui qui va lire la lettre, c'est sa fille, mais il met ses lunettes.
Ah oui, il y a beaucoup comme ça de scènes.
Donc il y a John Quallen qui était aussi dans La Prisonnière du désert.
Tu parlais de Ken Curtis. Été un des personnages principaux de la plus longue série western de l'histoire de la télé américaine, qui s'appelait Gunsmoke. Il y a eu des épisodes qui ont été diffusés dans les 70 sous le titre Police des Plaines, avec un acteur qui s'appelle James Ernest. Vous avez peut-être vu, vous souvenez d'une série qui s'appelait Conquête de l'Ouest, avec un trappeur qui s'appelait Zébulon McCann. Ben, c'était James Ernest. Et donc, ce personnage de Festus, alias Ken Curtis, on le voit pendant toutes les saisons, 21 saisons, ça a duré Gunsmoke, une des plus longues séries, la plus longue série jusqu'ici, jamais tournée. Il doit y avoir quelque chose comme 655 épisodes, c'est incroyable, quoi. Et vraiment, ça montre à quel point les histoires de l'Ouest américain sont ancrées dans les gènes du peuple, quoi. Il y a des chaînes aux États-Unis, vous avez des chaînes à péage en boucle qui vous repassent les westerns en boucle, aussi bien des grands classiques que des petits westerns de série B, des séries télé aussi. Mon ami Patrice serait fin heureux là-bas devant son écran de télé, H24, hein, des westerns. C'est fabuleux, quoi. C'est...
The way it was. Cold, savage, no holds barred, no words minced.
Do you want me to tell you what this little angel looks like now?
Oh, come on.
No,
Guthrie,
no,
cut it out.
No, let her know. It's about time somebody in this camp knows. Here. Now you listen to me. That kid has braids down to here now.
Autre scène émouvante aussi, c'est... Je trouve ça assez émouvant, quoi, les scènes de l'idylle entre le lieutenant Jim Gary et Charlie Jones.
Oui, oui. Alors Richard Widmark,
se trouvait trop vieux pour le rôle.
De 15 ans,
ouais. Il se trouvait trop vieux de 15 ans pour jouer le rôle d'un jeune lieutenant de l'armée. Hein. Finalement, il a accepté pour le plaisir de tourner avec John Ford. Et John Ford a bien aimé travailler avec ces deux interprètes, puisque il va embaucher à nouveau James Stewart dans L'homme qui tua Liberty Valance, voilà. Où il a le rôle principal, quoi. John Wayne, et il embauchera aussi Richard Widmark dans Les Cheyennes, plus tard. Hein. Ouais. Donc il avait eu beaucoup de plaisir quand même, même si c'est désintéressé du tournage, il a eu quand même beaucoup de plaisir à tourner avec ces deux interprètes.
Les Cheyennes, dont on peut dire que les rôles principaux d'Amérindiens, en fait, ont été dévolus à des acteurs...
Oui, ouais. Au départ, ça devait être de vrais Indiens.
Oui, tout à fait. Hein.
Et le film souffre un peu du fait que ça a été des Indiens d'Hollywood, quoi, finalement.
Alors, il faut que je vous raconte quelque chose qui est absolument vécu. Moi, mon grand bonheur, quand j'ai, je dirais, commencé à embrasser ma carrière, enfin, mon ancienne carrière professionnelle, j'étais sur Villeneuve d'Ascq et j'avais besoin de grands espaces. Et c'était l'époque où, justement, il sortait Danse avec les loups. Et alors, tenez-vous bien, hein, j'étais jeune débutant dans une boîte à chaussures, un espace vraiment que je pouvais toucher rien qu'en tendant les mains comme ça en croix, je touchais les deux murs de mon petit local où je vivais, où je dormais, où je mangeais, où j'étudiais. Et mon bonheur, c'était justement de prendre... J'ai vu 15 fois, tenez-vous bien, 15 fois en 3 mois, Danse avec les loups. Parce que mon bonheur, c'était chaque semaine... effectivement, de pouvoir avoir le film sur grand... J'avais besoin de grands espaces. Donc, ça tombait bien, il y avait Danse avec les loups, donc j'étais allé justement là-bas, au cinéma d'hôtel de ville de Villeneuve d'Ascq, et je voyais les grands espaces, comme ça, c'était fabuleux. Ça me faisait oublier mon petite boîte à chaussures. Comme quoi, le western, hein, il n'y a pas à dire, hein. On revient tout le temps aux sources du cinéma. Hein. Le cinéma, c'est là pour faire réfléchir, pour interroger, pour nous émouvoir, mais c'est aussi le sens de l'épique, de l'aventure, de la liberté, le souffle, voilà, des grands espaces. Ça, c'est ce qui fait que le cinéma est multiple, attachant et nous fait rêver.
Don't make me prove it.
Look, I know how you men feel, but there's not going to be any lynching. I not you.
Et dans chaque film, en effet, c'est une petite et une grande histoire. Et c'est un plaisir hein, d'entendre ces anecdotes racontées au Ciné-Club à Aniche. Vous souhaitez vous rendre au prochain Ciné-Club? Eh bien, écoutez ce qui va suivre.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
C'est à l'Idéal Cinéma Jacques Tati à Aniche, c'est rue Van Broek. Le club ciné, animé toujours par Bernard et Thierry Bulté, c'est le vendredi 23 juin à 20h, autour du film Sur les quais, avec Marlon Brando. C'est en version originale sous-titrée français et le tarif unique est de 3,50€. Je vous rappelle donc le club ciné le vendredi 23 juin à 20h autour du film Sur les quais. Donc tarif unique 3,50€. N'hésitez pas à vous y rendre, on passe toujours un très bon moment. Merci encore à Bernard et Thierry Bulté. Merci aussi à Carole pour l'interview. Restez donc bien avec nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, Twitter et bien sûr sur radioscarpsensé.com pour écouter Scarpe Ciné et les émissions du 94.1. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, allez au cinéma.
Scarpe Ciné, séquence 12, votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensée, ça tourne.
Et action!